L'Église nous invite aujourd'hui à méditer sur le pardon. Le pardon envers ceux que l'on aime, c'est jamais un problème. C'est tout juste une question de temps et ça ne va pas très loin. Parce qu'il y a l'amour. Et que l'amour est la condition sine qua non, le moteur de toute forme de pardon. Alors c'est évidemment le pardon envers l'ennemi, appelons-le comme ça, envers l'ennemi pour qui eh bien, nous n'avons pas ce lien d'amour qui nous permet de rapidement désamorcer les situations brûlantes, tendues, d'opposition. Le pardon, c'est l'œuvre de la miséricorde divine. Vous savez, quand on remonte au commencement du monde, comme le fait saint Paul dans son épître, eh bien, il y a ce péché originel. Et ce péché originel, cette rupture avec Dieu initiale, eh bien, elle a blessé profondément la capacité de pardon de l'homme. Et ça remonte là. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le pardon, maintenant, c'est plus quelque chose qui nous habite continuellement, en permanence, parce qu'il est alimenté par l'amour. Maintenant, puisque l'amour est blessé, le pardon lui aussi profondément. Le pardon pour nous croyants, concrètement, c'est une vertu infusée par Dieu. Donc vous voyez, on est dans l'ordre du dépassement des forces strictement naturelles. Là, il faut, quand on est capable de pardonner, quelqu'un qui peut véritablement pardonner, alors pour des fautes qui méritent le pardon, bien évidemment, eh bien, on peut dire que cet homme-là, cette femme-là, est vraiment dans la volonté de Dieu et que sa foi est grande et vivante. Donc il y a ce dépassement qui prouve que maintenant, après le péché originel, nous avons besoin d'un coup de pouce divin pour poser cet acte-là de pardon. Mais le pardon est aussi une libération. On n'insiste pas assez là-dessus. Une libération de quoi? Mais du poids du péché. Vous voyez, quand vous éprouvez ne serait-ce que de la colère, une bonne colère s'entend, hein, et qui dure longtemps, ben, qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas s'en débarrasser, elle pollue notre conscience, elle pollue notre paix intérieure, elle trouble notre bonheur, notre joie, notre légèreté, elle empêche la pleine communication de l'amour que nous avons envers ceux que nous aimons particulièrement, les membres de notre famille par exemple, ou nos amis. La colère, elle est là, elle bouillonne, on veut s'en débarrasser, elle ne veut pas partir. Il faut bien sûr résister. Mais on se rend compte que c'est un combat, et c'est à coup de transpiration du cœur qu'on parvient enfin à tenir le choc et à se débarrasser de cette colère. Il y a ce poids du péché. Vous voyez, c'est ça le poids du péché. Quand l'autre nous entraîne dans l'opposition, et là, Jésus nous donne un crescendo, vous voyez, il y a l'opposition, l'ennemi, celui qui se pose en ennemi en face de nous. Il y a ensuite la haine qui fait passer d'un cran enflammé l'opposition, véritablement. Puis il y a la malédiction. La malédiction, c'est quelque chose de définitif, c'est la haine éternelle. Vous avez ensuite la calomnie, donc on commence là, ça sort de soi pour se développer comme un incendie à l'extérieur. On commence à détruire la réputation de l'autre, à mobiliser les autres contre lui. C'est suivi de l'agression, nous dit Jésus, la gifle, et même du vol, de la spoliation sous toutes ses formes. C'est le dernier, peut-être même la vie qu'on peut voler, le dernier degré. Voilà, en face de chacun de ces degrés maléfiques, il faut poser la vertu contraire et adapter à chacun de ces cas. C'est ce que le Seigneur nous dit dans cet enseignement très précieux. Ces vertus, elles s'appuient sur le fait, Eh bien, que ce n'est pas avec nos propres forces, mais en vertu, en tout cas, de la règle d'or que Jésus reprend, hein, qui appartient à l'Ancien Testament, faire à l'autre ce qu'on voudrait que l'autre, que les autres fassent pour nous. La règle d'or, au moins celle-là, qui permet de se réveiller, d'équilibrer notre jugement et surtout de ne pas rentrer dans la logique du païen qui est la logique du œil pour œil et dent pour dent. Cette logique-là, c'est celle des hommes. Et il faut se souvenir et méditer profondément lorsqu'on se prépare à recevoir le pardon ou la capacité, la puissance de pardonner. Eh bien, il faut se souvenir que être miséricordieux, c'est être à l'image du Père. Et ça, tout de suite, ça fait changer les perspectives. C'est pas à cause du mérite des hommes, surtout pas de nos ennemis, que nous allons leur pardonner. Nous allons leur pardonner parce que Dieu est miséricordieux par nature. Lui qui pardonne aux ingrats, nous dit Jésus, ainsi qu'aux méchants, à toute forme de rejet, en quelque sorte, de l'amour. Le pardon vient réparer les rejets de l'amour. Et ça, c'est... On peut participer à cette œuvre grandiose en posant des pardons, et c'est tellement nécessaire. Et Jésus ajoute, en complément, au type d'intensité du pardon à poser, c'était ce que j'ai dit précédemment, il ajoute qu'il ne faut pas juger ni condamner, ça c'est intérieur, mais qu'il faut pardonner et donner. Il y a le pardon et à côté il met le don aussi. Et on voit tout de suite que le pardon il fait la charnière entre ce qui est intérieur et ce qui est extérieur. Et comme le Seigneur nous le dit ailleurs, les pensées mauvaises, c'est ce qui sortent du cœur. Eh bien, c'est là qu'il faut les étrangler, sinon elles se déversent à l'extérieur. Donc il y a cette règle d'or qui s'oppose à la logique des païens. C'est prenons modèle sur Dieu. Désirons devenir vraiment les images du Père, les fils, les enfants de la lumière. Alors, les remèdes ou les préparations, ce qui peut nous permettre de poser des pardons quand c'est nécessaire, d'abord, on s'aperçoit que les biens matériels sont souvent des causes d'opposition, de conflit. Donc, apprenons à avoir un certain détachement vis-à-vis des biens matériels. Ainsi, lorsqu'il y a un conflit autour de biens matériels, au moins, on peut les gérer sereinement et ne pas rentrer d'emblée dans l'opposition, dans le conflit avec les autres, mais avoir l'attitude juste qui, s'il y a débordement, eh bien, permet au moins de poser le pardon. Il y a aussi le pardon qui s'adresse à la jalousie aveugle. Alors là, le remède, c'est la prière. Parce que la jalousie aveugle, elle est, vous voyez, la jalousie, elle est sans objet. Pensez au premier péché de jalousie, Caïn et Abel. Caïn est jaloux de son frère. Il n'est pas jaloux de ce que fait son frère. Il est jaloux du fait que Dieu regarde son frère, aime son frère. Il voudrait que Dieu ne regarde que lui, n'aime que lui. Et il ne supporte pas ce bien-là. Mais ce bien-là, il n'a rien de matériel. La jalousie n'a pas besoin de s'appuyer sur quelque chose de concret. La jalousie est irrationnelle de toute façon. On ne peut pas obtenir ce qu'a l'autre ou ce qu'est l'autre par la jalousie. La jalousie n'apporte rien, elle est inféconde. Et donc il n'y a que la prière. Prier pour les jaloux, ceux qui éventuellement nous jalousent. Enfin, un autre remède, c'est de distinguer le pécheur du péché, c'est de purifier notre regard, de le spiritualiser, surtout dans ces occasions de conflit. Il faut regarder, voir en quelque sorte, et même pousser-le avec l'imagination si c'est nécessaire. Lorsque quelqu'un vous agresse d'une façon ou d'une autre, peu importe, eh bien, voyez le démon qui est derrière lui et qui les prône. Et c'est ce démon-là que vous avez le droit de haïr, de détester, de maudire. Parce que lui, il ne se convertira jamais. Et qu'il continuera éternellement son œuvre de destruction. Mais le pécheur, eh bien, il faut trouver des raisons miséricordieuses de lui pardonner son ignorance, sa paresse, sa superficialité, que sais-je moi, tout ce qu'il entraîne derrière le sillage du démon. Oui, apprenons à voir comme les moines du désert ces démons qui manipulent les hommes, qui leur portent de mauvais conseils, qui disposent des pièges autour d'eux, pas seulement autour de nous, mais des autres. Et ça, ça aide beaucoup à ne pas entrer dans le conflit avec les hommes qui en sont évidemment les médiateurs. Mais regardons-les comme des médiateurs du mal, pas comme des causes du mal. On aura ainsi une disposition, ça n'est qu'une disposition, mais elle est puissante, eh bien, pour pratiquer le pardon. Le pardon, c'est l'œuvre de l'amour. Et je reprends ce que je disais. Là où il y a l'amour, il est facile de pardonner. Alors essayons de faire habiter l'amour fraternel dans notre cœur, de sorte que face à tous les conflits inévitables que nous rencontrons dans une société, eh bien, nous soyons aptes à conserver la paix et donc à gérer tous ces conflits selon la loi du Christ. Achevons sur le fait que c'est comme une parabole, cet enseignement. Il est à la fois, il n'est pas à prendre à la lettre et à appliquer à la lettre dans tous les cas. Il requiert une analyse, un examen des situations, bien évidemment. C'est un guide de sagesse, une direction et un état d'esprit que Jésus nous communique ici. Donc, appliquons ce programme, mais ce programme nécessite notre participation, la participation évidemment prudente de notre intelligence.